Monsieur François de Menton, ministre de la Justice, vous parle.
En avril 1945, François de Menton, garde des Sceaux de la France libérée, revient sur l'une des tâches prioritaires de l'époque.
Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs.
Parmi eux, parmi les collaborateurs, Louis-Ferdinand Céline, bien sûr, le grand écrivain au service du national-socialisme depuis 1937. Mais le docteur Destouches s'est enfui. Et en avril 1945, il est très loin du châtiment des traîtres, et vous allez comprendre pourquoi.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Ce nouvel épisode commence par une invraisemblable cavale au cœur d'un monde qui s'effondre. Puis il se poursuit par un redoutable bras de fer.
Voiture 15, compartiment F.
Le 17 juin 1944, Louis Destouches, Lucette Almanzor et le chat Bébert quittent Paris pour rejoindre une Allemagne qui se délite de toutes parts. Ils font étape à Baden-Baden, puis au château hanté de Sigmaringen, où s'est réfugiée la colonie des collabos, avant de rejoindre enfin le Danemark. Une fois installé à Copenhague, en mars 1945, Céline entame un jeu de dupes avec les magistrats français.
Messieurs, la cour.
Dans l'espoir de manipuler la justice.
Un peu de silence.
C'est un moment crucial dans notre récit, car c'est là que se mettent en place les ressorts de la stratégie célinienne de la victimisation. Depuis le Danemark, Louis-Ferdinand Céline commence à tisser sa toile d'innocence, une posture qui lui offrira bien plus tard une réhabilitation. La cavale du docteur Destouches éclaire toute la suite.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour. Huitième épisode, l'étrange cavale.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit commence à Beson, en Seine-et-Oise, fin janvier 1944. En prévision du débarquement en Normandie, les avions alliés préparent le terrain en bombardant le nord de la France et la banlieue parisienne. Depuis son dispensaire, le cynique docteur Destouches assiste au spectacle incendiaire de cette fin de règne pour les collabos.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Frédéric Ampétaz, le 27 janvier 1944. Aujourd'hui, bombardement du pont de Beson. J'étais en train de prendre un faux café chez le pharmacien. Le pont n'a pas été touché, mais les maisons côté Colombes. D'énormes cratères. Quelques morts, j'imagine. Vraiment, maintenant, le cauchemar nous cerne de mieux en mieux. Voilà les nouvelles.
Amis, sentons avec ferveur le chanvre purificateur.
Sur Radio Londres, à sa manière, Pierre Dac bombarde, lui aussi.
Pressons-le bien en cadence, car il en faudra bientôt pour suspendre à la potence les traîtres et les salauds.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les collaborateurs à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les les collaborateurs, on les pendra.
En juin 1944, à peine 10 jours après le débarquement allié, Louis Destouches, pressent qu'il doit vite quitter Paris.
Il a été un des collaborationnistes les plus en vue de l'occupation. Il reçoit des menaces de mort.
Anne Simonin est historienne.
Et donc, il prend la fuite parce qu'il a peur de ne même pas être épuré et d'être tout simplement condamné à mort et exécuté par les résistants, d'autant plus qu'a commencé ce qu'on appelle l'épuration extra-légale.
Alors les collabos là, on les voit à cette heure ? Hein ? Fumier !
Allons, allons, du calme.
On va en reparler, t'inquiète.
Et donc, il a reçu des menaces, ça c'est absolument incontestable, et donc il décide de fuir.
Avec Lucette Almanzor, devenue Madame Destouches en février 1943, ils décident de fuir leur domicile de Montmartre le 17 juin 1944. Céline craint pour sa vie, mais ce n'est pas tout.
Et il y a une autre raison, qui est aussi une raison très importante pour Céline, c'est qu'il a caché son magot au Danemark par l'intermédiaire de la danseuse Karen Marie Jensen, qui a été sa maîtresse. Et il veut récupérer son argent.
Émile Bramy, biographe de Louis-Ferdinand Céline.
Donc son but, c'est pas d'aller en Allemagne, c'est de passer le plus rapidement possible au Danemark. Donc dans un premier temps, il se retrouve avec la crème de la collaboration à Baden-Baden. Et puis ensuite, devant l'avance des Alliés, on évacue Baden-Baden et lui se rend à Berlin parce qu'il est l'ami d'un général SS médecin. Et ce général SS est celui qui va le cacher dans une ferme en Poméranie. C'est ce qu'il va raconter dans Nord. Et ça se passe très mal dans cette ferme. Et donc, c'est lui qui va demander à rejoindre ensuite la colonie de Sigmaringen.
Louis Ferdinand Céline, dans « D'un château l'autre », 1957. La chancellerie du Grand Reich avait trouvé pour les Français de Sigmaringen une certaine façon d'exister, ni absolument fictive, ni absolument réelle, qui, sans engager l'avenir, tenait tout de même compte du passé.
Compatriotes français !
Statut fictif, mi-quarantaine, mi-opérette.
En ce 1er octobre 1944, nous allons voir se dresser dans le ciel nos trois couleurs, au fait de ce monument chargé d'histoire que le gouvernement du Reich a bien voulu mettre à notre disposition pour la défense de nos intérêts nationaux.
Ayez bien en tête que cette fuite de Céline et Lucette est prise en charge par les autorités allemandes. Il ne s'agit nullement d'une cavale improvisée. Ainsi, flanqués de leur chat Bébert et de leur ami Robert Le Vigan, le couple Destouches débarque à Sigmaringen début novembre 1944. Qui trouve-t-on dans cette bourgade située dans le sud de l'Allemagne, à 50 km au nord du lac de Constance ?
À la fois les éclopés du gouvernement de Vichy, ceux qui ont suivi Pétain et Laval, pas tous, mais la plupart des ministres sont là.
L'historien Laurent Joly.
Donc vous avez Bichelonne, Paul Marion, Hérol Packy.
Jean Hérol Packy sera désormais l'éditorialiste du Radio-Journal de Paris à notre bulletin d'information de 13h.
L'ancien ténor de Radio Paris, d'ailleurs Hérol Packy, il a tenu son journal qui est très intéressant, et il évoque un Céline, c'est l'un des rares témoignages sur Céline à Sigmaringen, et Hérol Packy est assez désabusé de voir Céline qui regrette, Céline est toujours en train de se plaindre, donc c'est un peu sa manière d'être là-bas, et Céline regrette ses pamphlets antisémites. Et Hérol Packy, il est outré. Je dis, mais comment il peut désavouer ces livres si importants ? Et Céline dit, oh, ces livres, ils m'ont valu que des problèmes, j'aurais jamais dû les faire. Donc voilà le Céline qui a demandé à Brinon de rejoindre Sigmaringen pour faire office de médecin. Donc il va un peu exercer la médecine. C'est aussi évoqué dans D'un château l'autre, qui est un livre très caustique, très moqueur. Et donc il y a des scènes assez marrantes sur les différentes pathologies qu'il va traiter. Mais surtout, il y a cette description de ce personnel politique totalement déconfit, le rituel de la promenade de Pétain.
Mes respects, monsieur le maréchal.
Dites-moi, Laval, vous ferez bien quelque part avec moi?
Il va bientôt falloir ficher le camp d'ici, monsieur le maréchal. L'article 75 n'est pas une plaisanterie. Ils veulent ma peau. Et je leur ferai pas ce cadeau.
Laval, qui imagine encore certaines choses. Voilà, donc c'est... Il y reste peu de temps. Je crois qu'il part au bout de 5 mois, même sans doute un peu moins. Je crois qu'il part en mars 45. Mais c'est vraiment une parenthèse d'amertume où il n'a pas grand-chose à faire et où il passe son temps à se plaindre.
Mais dites-moi pourquoi ce château-là vous intéressait particulièrement à décrire.
Louis-Ferdinand Céline, 1957.
Il est intéressant en ce sens qu'il est assez cinéma, n'est-ce pas ? Et puis, il est pittoresque, n'est-ce pas, tout de même ? Et puis, il existe historiquement. C'est un moment de l'histoire de France, malgré tout, l'affaire Pétain, n'est-ce pas ?
Le couple des Touches est installé à l'hôtel Leuven, premier étage, chambre 11. Arrivé de son plein gré à Sigmaringen, contrairement à Pétain ou à Laval, Louis-Ferdinand Céline est officiellement nommé médecin.
Entrez, docteur.
De la colonie des collabos français.
Posez vos affaires. Le président de Brinon va vous recevoir dans quelques instants.
Donc il a l'autorisation d'exercer la médecine, il y a 2 médecins.
L'historien Philippe Roussin.
Il exerce d'abord dans une chambre d'hôtel, ensuite dans le cabinet d'un médecin allemand qui n'est pas là. Un contrat est signé pour cette affaire. Et donc, il voit les dignitaires de l'ex-régime, il voit Laval, il voit Brinon, il voit un certain nombre de journalistes de la collaboration. Voilà, mais son but quand même est de ne pas être pris dans cette nasse-là.
Il voit aussi Darnand, je crois, puisqu'il y a un témoignage du fils de Darnand qui dit que Céline a soigné son père, Darnand étant le chef de la milice française.
Oui, absolument.
Je me souviens évidemment de Céline.
Philippe Darnand, fils de Joseph Darnand, 1996.
Je me souviens de ses yeux, comme il y a des ouvriers dont les yeux sont attaqués par l'acide, je ne sais plus, les typographes. Et ça, il avait ses yeux brûlés par l'acide, mais en même temps, je vous dis également très, très doux, presque tendre. C'est étonnant d'ailleurs. Vous avez dit par là qu'il avait un côté humanité en lui qui était extraordinaire. Et quand on était son malade, son patient, on se sentait très à l'aise avec lui.
Faites entrer le suivant.
Dans son journal de bord, le journaliste français et collaborationniste Jean-Hérold de Paqui affirme qu'à Sigmaringen, le docteur Destouches regrettait d'avoir écrit ses pamphlets antisémites. Mais attention, il s'agissait d'un regret vis-à-vis du danger qui le menaçait désormais. Et certainement pas d'un regret idéologique.
Ah non, c'est pas un regret. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce mélange assez fascinant chez Céline d'un cap idéologique qu'il a choisi et sur lequel, je pense, il restera toute sa vie.
Laurent Joly.
C'est-à-dire, il a cru à un moment politiquement au racisme nazi. Il a cru en ça, ça a été la seule cause à laquelle il a cru. Pour le reste, c'est un homme obsédé par la mort et convaincu du déclin total de la France et d'Occident. Et en même temps, un homme qui est toujours soucieux de défendre ses intérêts. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on lui fait, y compris pendant l'occupation. Quand il sort Guignol's Band, on lui dit « Mais pourquoi il fait un roman, en plus c'est qu'un nom anglais ?» Donc voilà, Céline, il a compris que les carottes étaient cuites et qu'il fallait redevenir le romancier maudit. Voilà. Et donc, il va reprendre ce costume du romancier dès l'occupation. C'est quand même assez troublant. Il a compris qu'il fallait déjà préparer son rôle de l'après-guerre, qu'il va reprendre dans les années 50 et jusqu'à sa mort.
Dans ce séjour à Sigmaringen, Laurent Joly, il y a un homme qui est là près de lui, un ami qui s'appelle Robert Le Vigan. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots qui était Robert Le Vigan ?
Il est là, sur la branche.
Robert Le Vigan, c'était un acteur connu.
Non, aucun, allez, descends ! Jamais !
Et qui était un personnage très excessif, qui se droguait, qui était une sorte de fasciste, anarchiste, quoi, qui gueulait tout le temps. C'est vrai, quand on a lu les livres de Céline, je me rappelle notamment de Nord, où c'est en permanence des disputes avec Le Vigan, des scènes épouvantables. Voilà, donc Le Vigan, c'est le copain un peu inséparable, mais avec lequel il se brouille tout le temps.
Vous l'avez quitté, en somme, en Allemagne.
En Allemagne, oui, oui.
Témoignage de Robert Le Vigan, 1974.
Il allait vers le nord et vous, vous alliez vers le sud.
C'est-à-dire que lorsque les troupes alliées s'approchaient de Sigmaringen, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait foutre le camp. Alors Céline a pu obtenir des autorités allemandes de se réfugier au Danemark, où il avait là en banque un peu d'argent qui lui aurait permis de vivre. Et nous sommes descendus vers la Suisse. Et j'ai été arrêté à Feldkirch avec Robatet, avec pas mal de camarades.
Allez, on y va.
Devant l'avancée des troupes alliées, le docteur Destouches fait feu de tout bois.
Et il va obtenir, ça c'est Robatet qui le raconte,
Émile Bramy.
Il est le seul à obtenir un laissez-passer pour le Danemark. Il obtient parce qu'il a des relations très haut placées dans l'appareil politique nazi.
Dans ce Troisième Reich qui s'effondre, les relations nazies de Céline fonctionnent encore. Et des relations très solides sans doute. Car rejoindre le Danemark en mars 1945 n'est pas une évidence.
Il faut des autorisations pour se déplacer. Donc il passe par un nazi lorrain, Bickler, qui est entré au parti nazi, et qui est devenu SS, qui a été intronisé SS. Et puis, il a aussi l'autorisation de celui qui est le principal personnage du Reich au Danemark, qui est Werner Best.
Philippe Roussin.
Donc là, Céline remonte vers le nord. Et donc, il faut toujours penser à Primo Levi, ce qu'a raconté Primo Levi, c'est-à-dire sur les trains, hein, c'est-à-dire tous les gens qui sortent des camps, qui cherchent à rentrer chez eux. Toutes les marches de la mort quand les camps sont évacués. Et donc Céline croise tout ça. Et donc quand on sait lire de près, dans Nord et Rigaudon, on voit qu'il est dans des trains, il croise des trains, il voit des choses sur les bas-côtés. Il parle de choses nietzschéennes. Voilà, il passe dans ce contexte-là.
Écoutez ce témoignage inédit de Lucette Destouches au micro de Frédéric Vitou, où elle raconte cette fuite en train pour Copenhague.
Moi, j'ai eu l'impression que ça durait un mois. Tellement on a pris de train sur train, des trains qui duraient, c'est vrai, peut-être 10 minutes, mais ouais. Ça semblait une journée ou deux jours ou trois jours. Parce que ce train, sautait parce que les rails étaient sautés, il n'y avait plus de défense, n'est-ce pas ? Alors, le premier avion anglais ou américain qui arrivait,
merde, on est bombardés.
Les Allemands refaisaient les rails devant nous. Alors, on allait à une gare qui était en ruine, mais il y avait encore un peu de rails. On avait un train, on prenait n'importe quel train, du moment que ça montait vers le nord. Alors, on attendait souvent 4 heures à errer dans la ville où on arrivait, ou même pas une ville, dans l'endroit, pour chercher un autre train qui repart ailleurs. Donc, d'un train sur un autre train, puis encore un autre train.
Sous leurs yeux défilent des paysages désolés.
Les maisons étaient toutes écroulées, naturellement. Et il restait des petits foyers, comme des feux follets, quoi, un peu partout. C'est tout ce qu'il y avait. Et toutes les villes étaient comme ça. On n'a pas vu une seule ville debout. Et donc, ça pouvait sembler interminable. Il n'y avait pas de but.
Le but demeure le Danemark. Mais cette traversée d'un monde en ruine est aux frontières du réel.
Et tout à coup, c'était une espèce de clair de lune. Et je vois là un espèce de mur. Et je dis, tiens, il y a une armée qui est là, il y a des soldats qui sont là. Et en effet, il y avait des soldats qui étaient debout, appuyés sur leurs fusils. Et dans ce moitié clair de lune, on croyait qu'ils étaient debout, en train d'attendre. On approchait, ils étaient tous, mais morts debout. Ils avaient été soufflés.
Après cette odyssée en train, au cœur de la débâcle hitlérienne, le couple Destouches et leur chat Bébert arrivent à Copenhague le 27 mars 1945.
Ils descendent à l'hôtel d'Angleterre, qui est le meilleur hôtel de Copenhague.
Émile Bramy.
Et puis ensuite, ils habitent dans l'appartement de l'ancienne maîtresse, Karen Marie Jensen, qui est en Espagne en ce moment-là, elle est en tournée, et elle a un amant espagnol.
Les Détouches se postent au Danemark, pays encore sous occupation nazie, où de nombreux Allemands sont venus se mettre à l'abri, devant l'avancée fulgurante de l'armée rouge.
Allez là.
Allez là.
Céline s'y installe tranquillement, et il est sans doute très soulagé. Car au même moment en France...
Il semble que malgré une certaine lenteur au démarrage, l'œuvre d'épuration soit désormais en bonne route.
La justice poursuit sa tâche.
Qu'il s'agisse du travail des commissions professionnelles ou de celui des tribunaux, tout nous permet de penser que les mesures qui s'imposent sont prises contre ceux qui ont manqué à leur devoir de patriote.
Collabo va, il mériterait la corde.
En mai 1945,
it was of course the same in Copenhagen, where British airborne troops were the first to see what freedom from German rule meant to the Danes.
Le Danemark est enfin libéré et Louis Ferdinand Céline entre alors dans une grande discrétion. Sa situation est irrégulière. Lui et Lucette sont d'abord sans papier. Mais grâce à un avocat, Maître Mikkelsen, ils obtiennent un permis de séjour. Cependant, son anonymat s'évente assez vite. Plusieurs sources ont reconnu Céline. Et la France exige du Danemark l'extradition du traître à la patrie. Ainsi, le 17 décembre 1945, le couple Détouches est arrêté par la police danoise.
Cette arrestation, elle va être racontée par Lucette à Frédéric Vitoux. On sonne à la porte, c'est les flics, Céline sort un pistolet, puis comme il ne veut pas s'en servir, il s'enfuit.
Et c'est de là, quand on a été arrêté, qu'on est parti sur le toit.
Il court sur les toits, et finalement, il sort. Il se trouve que ce jour-là, il y a un danseur qui s'appelle Birger Bertolin, avec qui travaille Lucette, qui est dans l'escalier en même temps que les flics. Et il dira plus tard, bien plus tard, hein, son témoignage date de 80, je crois... Il dira, Céline a ouvert la porte et il s'est rendu. Lucette est relâchée le lendemain, puisqu'on n'a rien contre elle. Elle n'a rien fait, jamais, enfin, etc. Et lui est mis en prison.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline, le 26 décembre 1945. Monsieur le directeur, j'ai été arrêté lundi soir à mon domicile, Vedstrand 20, Copenhague, où je résidais depuis 9 mois. Ma femme a été arrêtée en même temps que moi. Je suis enfermé dans une prison. Ma femme, dans une autre prison. Nous ne parlons pas un mot de danois. Je suis mutilé de guerre, 14-18. Gravement à la tête et au bras, 75%.
Dès son arrestation, Céline joue la carte de l'ancien combattant. Une stratégie qui entame déjà sa réhabilitation.
À partir de ce moment-là, mais à partir de ce moment-là seulement, la Première Guerre mondiale devient un élément de réhabilitation de la dignité de ce personnage.
Odile Roinette est historienne.
Puisque, d'une certaine manière, cette aura d'ancien combattant, héroïque, médaillé militaire, récipiendaire de la Croix de guerre, toute cette belle image va être extraordinairement utile pour construire une défense avec ses avocats, en disant « mais je ne peux pas être anti-français, je ne peux pas avoir nui aux intérêts profonds de la France qui lui reprochait hein, entre 1940 et 1944, puisque je suis un combattant exemplaire ». Et du coup, par exemple, dans son exil au Danemark, on le voit se trimballer avec le dessin dont nous avons parlé de l'illustré national qu'il porte sur lui. Pourquoi ? Parce que ce dessin est censé accréditer la thèse de l'héroïsme guerrier de Louis-Ferdinand Détouches, qui lui sera par ailleurs très utile au moment du procès, au titre de grand combattant héroïque de la Première Guerre mondiale.
Le Danemark refuse l'extradition vers la France, par crainte d'une justice expéditive.
Chargé ! En joue !
Non !
Mais le ministre de la Justice décide quand même de placer Louis-Ferdinand Céline en détention, à Copenhague.
La prison, il va y passer un certain temps, 18 mois, et c'est alors de façon certaine le pire moment de sa vie, ça c'est clair. Mais on peut dire de façon certaine qu'on lui sauve la vie. Il est incarcéré parce qu'une dame de l'ambassade de France l'a reconnu, qu'elle l'a dénoncé, qu'un journal, le journal communiste de Copenhague, dit « il y a un nazi qui est chez nous, donc il est arrêté pour ça ». Et il y a une demande d'extradition qui est faite par la France. Si on l'avait extradé immédiatement, en 1945, il aurait été jugé rapidement et fusillé. Donc les autorités danoises, et plus particulièrement le ministre de la Justice, ont jugé qu'il était urgent d'attendre. Donc on le met en prison, c'est pas un bagne, on est chez des protestants, donc c'est propre et on fait attention. Voilà.
Sobre, c'est sobre.
C'est sobre, c'est une prison. Mais il n'y a pas les conditions épouvantables qu'il décrira par la suite. Voilà. Et puis, il obtiendra rapidement de pouvoir être à l'infirmerie, de sortir, d'aller faire soigner ses dents, enfin, etc. Mais il y a une année d'incarcération quand même qui est pour lui extrêmement pénible, parce que c'est quelqu'un qui sincèrement ne comprend pas pourquoi on le poursuit. Sincèrement.
Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et a conservé ses colonies. Oui. Mais c'est tout. Qu'on prouve le contraire.
Il a l'impression de s'être sacrifié pour les Français et il se demande qu'est-ce qu'on lui veut. Il n'imagine pas une seconde que son comportement pendant la guerre ou avant ait pu être quelque chose de préjudiciable à d'autres. Il se compare très souvent à un cerf. C'est un cerf qui est poursuivi par une meute et pour qui on sonne l'alali, alors que ce cerf est une bête magnifique et libre et qui n'a jamais rien fait de mal. Voilà, c'est ça sa comparaison.
Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisée dans l'histoire. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à l'étude de maître Michelsen, le 25 décembre 1945. J'ai appris lors de mon dernier interrogatoire que le gouvernement français exigeait qu'on me renvoie en France afin que j'y sois jugé pour avoir agi contre les intérêts de mon pays. À ce dernier point, j'oppose un démenti formel. Je sollicite le gouvernement danois de bien vouloir m'accorder le statut de réfugié politique et de me protéger. Je suis un écrivain, et rien qu'un écrivain. Je nie formellement avoir fait quoi que ce soit contre le gouvernement français. Je suis un patriote et rien d'autre. J'ai voulu empêcher la guerre. C'est tout.
Céline se démène comme un diable pour éviter tout retour sur le territoire national. A-t-il raison de s'inquiéter ?
Il a raison de craindre l'extradition vers la France parce qu'il est sous mandat d'arrêt depuis avril 1945.
Anne Simonin.
Et il sait très bien que l'épuration est en cours et qu'il va être déféré devant une cour de justice, forcément. Donc ça, il a tout à fait raison de craindre son extradition. Il va tout faire en étant au Danemark pour, effectivement, ne pas être extradé. Ça, c'est sa grande obsession. Il ne faut jamais oublier que Céline est un bourgeois. Et on retrouve la même hantise chez Pierre Drieux-La Rochelle, qui est pas tant d'être condamné à mort, peut-être, quoique, mais surtout de faire de la prison. Ça, il ne veut pas en entendre parler. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très fort chez Céline. Maintenant, il est inculpé au nom de l'article 75 du Code pénal pour intelligence avec l'ennemi. Et il est certain que s'il est reconnu coupable au nom de l'article 75 du Code pénal, il sera condamné à mort. Donc, il y a un vrai risque. Et il a, de son point de vue, totalement raison. Plus il fera durer, plus il jouera la montre d'une certaine façon, plus il a de chances d'échapper à la peine de mort.
En effet, Louis-Ferdinand Céline sait qu'il risque la mort. Comme l'écrivain Robert Brasillach, fusillé au fort de Montrouge le 6 février 1945. Une exécution commenté en 1969 par Lucien Rebattet, écrivain fasciste et ami de Céline.
L'horreur de cette exécution a évidemment fait réfléchir beaucoup de gens et les hommes de lettres en particulier, je dois dire vraiment de tous les bords, n'ont pas voulu de nouveau de ce sang. C'est très triste à dire pour Robert, pour lequel j'avais énormément d'affection. C'est lui qui nous a sauvé la vie, en grande partie.
Comment ?
En mourant. En mourant le premier. Et lui est mort, on n'a pas osé recommencer.
À Copenhague, Louis-Ferdinand Céline reste en prison pendant 18 mois et ressort de sa cellule le 24 juin 1947. Mais il ne cherche pas pour autant à rentrer en France, où une instruction judiciaire a été ouverte dès 1945.
Quand il sort de prison, il ne veut pas rentrer en France parce qu'il est encore sous le coup d'un éventuel jugement. Il va attendre que ce jugement soit rendu. C'est son avocat, Mikkelsen, qui va le loger dans un petit village au bord de la Baltique qui s'appelle Korsør.
Je suis désolé, j'ai peur qu'il faille prendre votre mal en patience.
Et là aussi, les descriptions de Korsør sont épouvantable. Enfin, je veux dire, c'est un lieu où il a froid, où on ne peut pas se chauffer, où la mer est glaciale, enfin, etc. La maison où il habite, qui s'appelle Fanehuset, elle fait 200 mètres carrés, très grand truc au rez-de-chaussée, il y a des chambres à l'étage. Toutes les portes étaient ouvertes pour que les animaux puissent entrer et sortir. Et il ne voulait pas qu'il fasse chaud pour que Lucette puisse faire ses exercices. Mikkelsen avait acheté une énorme masse de charbon. Personne ne l'utilisait. Donc voilà, il a eu froid, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu froid ? C'est parce qu'il voulait avoir froid. C'est un principe célinien. Hein. Son grand truc, c'est noircir et se noircir. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte de lui-même est affreux, tout ce qu'il raconte des autres est affreux, et toutes les situations sont affreuses.
Thorvald Mikkelsen, avocat danois de Céline, 1975. Céline était un curieux mélange d'excellentes et même exceptionnelles qualités. Un aristocrate intellectuel de la plus haute extraction qui méprisait les bourgeois, les épiciers et les hommes politiques. Mais c'était aussi un pleutre, ne pensant qu'à lui et jouant au martyr dès qu'il s'agissait de sa propre peau. Tout en lui était contradiction.
À l'automne 1947, Louis-Ferdinand Céline vit en liberté au Danemark et il reçoit la visite d'un ami parisien, René Héron de Villefosse.
À la gare de Copenhague, Céline m'attendait avec sa femme Lucette Almanzor et le chat Bébert en écharpe dans une musette. Le chat Bébert et lui m'ont amené à l'hôtel d'Angleterre où Mikkelsen m'avait retenu une chambre, enfin à mes frais. Louis-Ferdinand et sa femme habitaient une mansarde donnant au-dessus du parc du château de Rosenborg.
Céline compte bien profiter de cette visite amicale pour faire passer des messages à Paris et pour relayer son point de vue en France, où l'instruction judiciaire avance péniblement.
Il va y avoir un début d'instruction qui est compliqué pour les juges parce qu'il va falloir rassembler des preuves.
Anne Simonin.
Et ça va être effectivement des choses très très compliquées. Les juges n'arrivent même pas à se procurer un exemplaire de Bagatelle pour un massacre.
Et pourquoi ils n'y arrivent pas ?
Parce qu'on dit que le livre n'est plus en vente à partir de juillet 45. Alors c'est vrai qu'il a été retiré de la vente par la censure militaire, parce que la France est en guerre, et que tout de suite il y a des textes qui vont être retirés de la vente, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Donc les juges vont devoir travailler à partir des matériaux qu'ils ont, c'est-à-dire des coupures de presse, et puis de l'exemplaire des Beaux-Draps.
Les Beaux-Draps, c'est le troisième pamphlet antisémite de Céline, publié en 1941.
Donc, les Beaux-Draps vont prendre une importance absolument décisive dans l'instruction de Céline. Et ce qu'il y a d'intéressant, quand on a un texte, c'est que les Beaux-Draps vont être lus de façon très différente selon les deux commissaires du gouvernement. Il va y avoir, dans un premier temps, une lecture par Jean Seltensperger, qui est le premier commissaire du gouvernement, qui va instruire donc le cas Céline et qui va rédiger le réquisitoire. Ce réquisitoire, il date d'octobre 1949. Donc ça a mis du temps. Donc on a entre 45 et 49. D'abord, les juges espèrent que Céline va rentrer en France. Visiblement, il ne rentre pas et ils accumulent un certain nombre de preuves. Et Seltensperger, dans son réquisitoire, écrit « Comme l'indique le titre, donc à propos des Beaudras, l'ouvrage est consacré à la triste situation où nous avait laissé la défaite de 1940. Il contient des réflexions pleines d'amertume sur les origines de la guerre et de la défaite et sur les perspectives d'avenir qui s'offrent à notre pays. » Presque tout le livre est consacré à des projets de réforme de la société, projets qui relèvent beaucoup plus du socialisme et même du communisme que des idées de la Révolution nationale. Les Beaudras ne soulèveraient guère de critiques si leur auteur n'y avait introduit des réflexions qui produisirent une impression pénible du fait de l'occupation ennemie. D'autre part, on regrette que les événements n'aient pas empêché l'auteur de faire figurer parmi ses têtes de Turcs les Juifs qui n'occupaient plus alors la position privilégiée décrite dans Bagatelle. Conclusion, les Beaudras ne peuvent donc pas être considérés comme une œuvre de collaboration. Dont acte. Et Seltensperger considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de traces d'intelligence avec l'ennemi, dans la production des Beaudras, eh bien Céline doit être renvoyée devant ce que l'on appelle une chambre civique et ne peut être condamnée qu'à l'indignité nationale.
Donc pour bien comprendre, Anne Simonin, il était inculpé au nom des articles 75 et suivants.
Oui.
Ça veut dire pour fait de collaboration avec risque de peine de mort.
Absolument.
Et on le renvoie devant la chambre civique où il ne risque quasiment plus grand-chose.
Il risque une peine privative de droit qui s'appelle la dégradation nationale, qui est extrêmement rigoureuse parce qu'elle s'apparente littéralement à une mort civile, et notamment pour un écrivain, puisqu'il n'est pas censé être autorisé à publier ses œuvres. Et puis surtout, il risque quand même toujours la confiscation des biens.
Donc, en 1949, le commissaire du gouvernement chargé d'instruire le dossier Céline choisit en âme et conscience de minimiser la responsabilité de l'écrivain. Pour quelle raison ?
En fait, c'est un subterfuge. Le juge veut essayer de faire rentrer Céline en France, parce que ce que veulent les juges, c'est voir Céline en face d'eux.
Garde ! Faites entrer l'accusé.
La pire des choses pour un juge, c'est un accusé contumace. Donc, en se disant, si on dit à Céline qu'il ne risque plus que l'indignité nationale, on va le faire revenir. Moi, je me disais, c'est peut-être vers ça qu'ils allaient, sachant qu'une fois qu'ils auraient eu la main sur Céline, l'indignité nationale pouvait être couplée avec un autre article du Code pénal, qui s'appelle l'article 83.4, qui sanctionne les actes de nature à nuire à la défense nationale. Et donc là, Céline faisait de la prison.
Résumons. Il s'agit d'une stratégie pour appâter Céline. Car le procès risque de se tenir sans lui. C'est un procès par contumace. Or, les juges cherchent à le faire rentrer en France. Et puis, patatras.
Jean Seltensperger va être dessaisi parce que cette idée de renvoyer Céline devant uniquement la chambre civique, donc ne pouvant être sanctionné que par l'indignité nationale, va fuiter dans la presse et on va dire « Non, attendez, c'est juste pas possible. »
L'idée que Céline soit jugée devant une chambre civique et non plus devant une cour de justice choque l'opinion publique. Alors, l'institution judiciaire doit réagir.
On va dessaisir Seltensperger et c'est René Charras, le commissaire du gouvernement adjoint, qui va devoir rédiger un nouveau réquisitoire. Je cite. Décembre 49. Toujours sur les Beaudras comme pièce accusatoire principale. Les attaques contre les Juifs sont nombreuses, écrit René Charras, qui cite la note en bas de page.
Note de bas de page dans Les Beaudras, 1941.
J'entends par juif tout homme qui compte parmi ses grands-parents, un juif et un seul.
Un juif, un seul.
Comment d'ailleurs ces attaques contre les Juifs, les maçons, les Anglais, n'auraient-elles pas servi la propagande de guerre allemande puisque nous nous trouvons là en présence des thèmes favoris de la propagande nazie elle-même ? Et là, changement de décor, Céline est renvoyée devant la Cour de justice, mais pour acte de nature à nuire à la défense nationale, c'est-à-dire ne risquant plus la mort, mais risquant la prison, l'amende, la confiscation générale de ses biens.
Comment Louis-Ferdinand Céline appréhende-t-il ses inculpations ? Et quelle stratégie de défense adopte-t-il ?
Il va utiliser le principe de la lettre. Il va faire des lettres à ses juges. Il trouve une stratégie, et cette stratégie judiciaire, c'est le hareau.
Le hareau désigne une protestation légale.
C'est-à-dire qu'il va, à partir d'un poème de La Fontaine, « Hareau sur le baudet », mais aussi des informations qu'il glane dans la grande encyclopédie Larousse, à propos d'une procédure coutumière qui permet à un individu, encore jusqu'au XIXe siècle, de crier « hareau » quand il subit une injustice. Et il va totalement s'identifier à cet individu en considérant que, après tout, lui aussi, il peut appliquer des procédures de hareau. Et il va, en produisant des lettres qu'il adresse à ses juges, ce qui est une aberration, puisque quand vous êtes contumace, vous n'avez pas le droit à votre défense, puisque vous ne vous présentez pas devant les juges. Et donc, il adresse des lettres à ses juges directement, il adresse aussi des lettres au président du conseil, qui est Georges Bidault, il adresse des lettres au président du tribunal, et il se trouve que c'est des lettres qu'il écrit à l'encre bleue, avec une écriture, là pour le coup, très désarticulée, et en mettant très peu de mots sur les pages, donc vous recevez une lettre de Céline, mais vous recevez parfois 15 ou 20 pages. Donc vous avez l'impression, très honnêtement, quand vous lisez, donc la matérialité, c'est pour ça que ça n'est pas parce que nous sommes fétichistes en tant qu'historiens qu'on a besoin des documents, c'est parce que quand vous voyez ce que c'est qu'une lettre de Céline, ça n'a rien à voir avec une lettre dactylographiée. Donc vous avez vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous emmène dans un, je sais pas, dans un voyage au long cours, d'une certaine façon, pour vous raconter tous les malheurs qu'il a subis et l'injustice non moins criante que vous êtes en train de lui faire subir.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à René Mayer, le 26 novembre 1949. Monsieur le ministre, j'ai pris la liberté de vous écrire parce que j'essaie de faire comprendre à la justice française que je ne suis ni un traître, ni un antisémite, bouffeur d'israélites, ni vendu, ni vendable, mais simplement un Français pacifiste, patriote, folkloriste, ex-partisan des États-Unis d'Europe, entièrement désintéressé, n'ayant jamais appartenu à aucun groupe collaborateur, à aucune société collaboratrice, à aucun journal, à rien. Rien, rien.
Et ce qu'il y a de très impressionnant, c'est que Céline est capable d'être totalement délirant.
Je semble parler à des sources absolument acharnées à vouloir me couper la tête. Vengeance! Vengeance! De quoi? De qui? Mani, c'est tout.
Et puis, à un moment donné, il s'arrête net. Et il a une formule de politesse qui est absolument impeccable.
Industrie. L'épuration est devenue une industrie. Monsieur le ministre.
Et donc là, il y a tout un jeu avec la justice qui est de dire, vous pensez que je suis fou, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas fou. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je ne demande pas une irresponsabilité totale. Ça, c'est l'article 64 du Code pénal. Mais je demande les circonstances atténuantes et des circonstances très atténuantes. Et donc, il y a toute une façon, et on le voit dans la façon dont il écrit, de jouer à la fois la personne complètement désaxée, et d'ailleurs, les juges vont le prendre comme ça, en se disant, waouh, on a encore reçu une lettre de Céline complètement délirante. Mais, en même temps, ils n'appliqueront jamais l'article 64 pour dire Céline est irresponsable. Donc il y a un rapport de force qu'il va très bien jouer, mais ce rapport de force-là, il a surtout marché parce qu'il a bénéficié de complicité au plus haut niveau de l'appareil d'État.
Ces complicités au plus haut niveau de l'appareil d'État, on en parlera dans l'épisode suivant. Vous verrez, c'est passionnant. Pour l'instant, Louis-Ferdinand Céline envoie des dizaines de lettres en France pour tenter de se disculper et de déstabiliser ses juges. Et puis, Céline va essayer de mettre à profit la fascination qu'il exerce sur Milton Hindus, juif américain, professeur de littérature et étonnamment attiré par l'esprit crépusculaire de l'écrivain français. Milton Hindus débarque au Danemark en juillet 1948, où il passe 3 semaines avec Louis-Ferdinand Céline, à écouter sans cesse la victime se plaindre.
Oh, allons-y. Oh. Comment allez-vous, maître ?
Les prisons danoises m'ont guère arrangé. Moi qui n'étais déjà pas bien vaillant, avec mes vieilles blessures, mes vertiges...
Milton Hindus, dans Céline telle que je l'ai vue, 1950. 20 juillet 1948. Les Allemands, me dit Céline, ont entendu par antisémitisme le massacre des Juifs. Mais ce n'est pas du tout ainsi qu'il le comprenait, lui. Il avait voulu essayer d'élever les Aryens au niveau des Juifs, de les rendre aussi fins que les Juifs, et de leur permettre ainsi de mieux rivaliser avec eux. Il n'avait pas voulu qu'on tue les Juifs. Et selon lui, le massacre des Juifs n'était qu'un nouvel exemple de la traîtrise, de la stupidité et de la brutalité allemande.
Hindus ! Je t'en supplie ! Mais je te dis que je suis innocent ! Innocent ! Bordel de Dieu ! Hindus !
De retour aux États-Unis, Milton Hindus a des mots très durs contre Céline et les deux hommes se brouillent. Milton Hindus a fini par comprendre à qui il avait affaire.
Tout fait partie de la mauvaise foi chez Céline. Il sait très bien ce qu'il a fait et il va à chaque fois essayer de raconter des histoires ou de produire un narratif qui va le permettre de se dédouaner. Jamais, à aucun moment, Céline ne dira « j'ai eu tort ». Jamais. Donc, vous l'avez pas compris. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ce qu'il avait voulu faire. Vous ne connaissez pas le dossier. Il n'y a rien à lui reprocher. Il subit une affaire Dreyfus à l'envers. Ok, jamais, jamais, il ne dira « j'ai eu tort ».
Je mets simplement un petit doute.
Louis-Ferdinand Céline, 1957.
Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé.
Revenons en France, où l'instruction judiciaire arrive à son terme. Et le procès par contumace se tient à Paris, le 21 février 1950.
Messieurs, la cour !
La défense de Céline est assurée par maître Albert Nau. Et la salle d'audience est truffée d'amis de Céline, mobilisés en soutien à l'écrivain incriminé. Et de fait, l'ambiance s'en ressent.
L'avocat Albert Nau, dans « Les défendre tous », 1973. L'audience du 21 février 1950 fut un immense éclat de rire.
Un peu de silence.
Quand le président rappela, le plus sérieusement du monde, que Céline avait traité le procureur général de « suceur rêvasseux des crayons de la 4e République », d'increvable cafouilleux, patafouilleur, enfileur de fariboles meurtrières, de lécheurs d'arpions à la sauce cosaque. Les jurés éclatèrent de rire avec cette joie bruyante du peuple qui voit rosser le gendarme.
En février 1950, les grands procès de l'épuration ont déjà eu lieu et les Français et les Françaises sont passés à autre chose. Néanmoins, quel est le verdict ?
Le verdict !
Il y a condamnation, à 1 an de prison. Alors ça, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais la condamnation met Céline en état d'indignité nationale, c'est-à-dire qu'il est frappé d'une indignité nationale perpétuelle. Il perd tous ses droits civiques, il perd ses droits politiques, il perd son droit de porter des décorations, il perd son droit d'être publié librement par un éditeur. Il perd beaucoup plus que ça aussi d'un point de vue symbolique, parce que c'est très fort pour des hommes de cette génération-là. Il a beau dire que c'est un aimable passe-passe, que tout ça ne le concerne pas beaucoup, il est radié des listes électorales, par exemple. Et donc, c'est un ancien combattant, Céline. C'est quelque chose qui est important dans son rapport à la chose publique. Et là, il n'est plus qu'un citoyen de seconde zone.
C'est une mort sociale.
Oui, c'est une mort sociale, et c'est une mort, par exemple, il n'a plus le droit de porter ses décorations. Or, il est très très fier de ses deux médailles militaires. Et ça, c'est terminé. Mais surtout, il perd aussi sa pension d'ancien combattant. La moitié de ses biens sont confisqués. Et il faut voir ce que ça représente. Ce n'est pas simplement les biens présents. La confiscation des biens, c'est la peine la plus dure après la peine de mort. C'est puisque c'est la confiscation générale des biens présents et à venir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher de succession, en particulier la succession de sa mère. Tous ses droits d'auteur vont être systématiquement confisqués. Donc, il perd beaucoup, en réalité. Et quand on dit « c'est un jugement, le jugement du 21 février 1950 est un jugement léger », c'est parce que l'imaginaire s'accroche uniquement à la prison. Alors, oui, c'est un an de prison. Il a fait de la prison au Danemark, comme vous le soulignez. Donc, de toute façon, il y a cumul des peines et il ne fera même pas un jour de prison. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est les incapacités, les privations, la confiscation générale de la moitié de ses biens. Il y a des jugements évidemment plus sévères, mais c'est un jugement sévère. Et c'est une fausse interprétation de dire « Céline a gagné par sa stratégie judiciaire, il a obtenu ce qu'il voulait, à savoir pas de prison », ce qui n'est pas faux, mais pour moi, ça n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de toutes les incapacités et de la confiscation générale des biens qui le frappe.
Résumons. Par son exil au Danemark et par sa stratégie judiciaire, Céline parvient à échapper à la prison. Et le verdict peut nous sembler aujourd'hui assez clément. Mais ne sous-estimons pas les privations que ce jugement engendre. Et ayez conscience du caractère infamant de l'indignité nationale. Céline est donc reconnue indigne de la nation. Quant au coupable lui-même, à l'issue du procès, il naviguait entre le cynisme et la mauvaise foi.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Albert Parraz, le 23 février 1950. Cher vieux, me voilà indigné à vie et un an de trou. Mais j'ai déjà fait presque 2 piges ici. Ils ont été aussi peu vaches qu'ils pouvaient, faut convenir. J'aurais tort de râler. J'ai payé pour la raison d'État. Je suis innocent. Je suis le patriote persécuté pacifiste. Mais s'ils ne me condamnaient pas du tout, ils désavouaient la résistance. Se jouait là un truc qui dépasse beaucoup ma chétive personne. Je vais pas râler.
Il renverse toujours, d'un point de vue littéraire, la situation à son avantage. Mais je ne suis même pas sûre qu'il comprenne bien, parce qu'on le voit dans ses lettres à Michelsen, ce que c'est que l'indignité nationale. Et il y a eu tout un discours de l'extrême droite qui visait à dévaloriser l'indignité nationale en disant « bon, si c'est que ça, franchement, d'une certaine façon, c'est pas cher payé ».
En conclusion de ce 8e épisode, retenez qu'à partir de décembre 1945, Louis-Ferdinand Céline a tout fait, depuis le Danemark, pour se faire passer pour une victime et minimiser son rôle sous l'occupation allemande. Au final, il a tout de même été condamné par contumace, notamment à l'indignité nationale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aidé par un nouvel avocat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, Céline aspire désormais à faire suspendre ses sanctions.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Marie Canavaggia, le 21 mars 1951. Tixier prétend qu'il peut arriver à me faire amnistier. Il est généreux, grand cœur, certainement très adroit, on verra. Il doit me représenter en fiction par avoué devant le tribunal militaire le 15 avril. Il faut que l'amnistie soit signifiée à l'audience. Tout ceci entre nous deux.
Comment, grâce à un tour de passe-passe de Tixier-Vignancourt, Louis-Ferdinand Céline va entamer son chemin de réhabilitation nationale, c'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assisté de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Le roi des embrouilleurs. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.